Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Europe 1. Il est 4h58, nous sommes le mardi 26 février et ce matin je suis d'humeur.
I found my thrill.
Et oui, Fats Domino, un des pionniers du rock'n'roll, né un 26 février et décédé l'an dernier. Imaginez que nous puissions bénéficier un peu, un tout petit peu seulement, de l'inspiration des artistes nés un même jour. Autant dire que je signerai tout de suite pour un 26 février, date de naissance de Victor Hugo, de Johnny Cash, de Jean Tellet, de Michel Houellebecq, de Charlie Couture, de Tex Avery et Buffalo Bill. Mais je suis née un 4 avril, j'ai vérifié, c'est pas mal non plus, mais c'est une autre histoire. Alors on va rester rock ce matin avec mes deux acolytes de la semaine, qui sont Anissa Haddadi et Aurélien Fleureau. Bonjour les amis.
Bonjour Eva,
bonjour à tous. Tout va bien ?
En super Parfait. Forme.
Anissa, avec votre bonne humeur légendaire, vous avez en charge notamment de tisser un lien avec nos auditeurs. Oui. Quelle question est à l'ordre du jour ce matin sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ?
Bon, on vous a parlé du salon de l'agriculture, parce que toute la semaine, Europe 1 est en direct du salon de l'agriculture. On vous fait vivre cet événement. Bon, on vous a demandé de partager vos souvenirs à la ferme, peut-être petits, peut-être maintenant, puis vos animaux préférés. Je peux vous dire qu'il y a des petites pépites, il y a des messages. Je me languis de vous les lire.
On va voir ça dans quelques minutes. Aurélien, tout va bien ? Vous êtes pas endormi devant
en
vos écrans ?
En forme.
Bah, c'est parfait. Laurent Cabrol, Mister Météo.
Oui, bonjour.
Comment ça va, Laurent ?
Ça va bien.
En 5 mots, la météo.
Eh bien, si votre bronzage n'est pas au top, c'est le moment, il ne reste plus que 2 jours.
D'accord. Ah, non. Et pour les gens qui sont coincés au bureau, on fait comment ?
Eh bien, vous prenez une lampe à bronzer.
D'accord.
Et vous serez couleur locale.
Ouais, merci. Merci, Laurent. On vous retrouve tout à l'heure. Allez, je crois que nous sommes fin prêts. Actualité, bonne humeur, rigueur et légèreté, debout les copains, c'est parti.
Et nous sommes le 26 février. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon réveil à notre écoute, il est 5h. 5h, 7h, Eva Rock sur Europe 1.
Le premier journal de ce mardi 26 février, c'est avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Eva et bonjour à tous.
Les titres.
La colère d'un maire, celui de Calenzane en Corse, il envisage de porter plainte après la série d'incendies qui ont ravagé plusieurs milliers d'hectares de végétation autour du village. Ils sont selon lui d'origine criminelle, des enquêtes sont en cours. Le feu est désormais maîtrisé mais les autorités restent en alerte. Le gouvernement entérine la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort près de Bordeaux, 850 salariés. Après le refus du constructeur de la dernière offre de reprise, attitude qualifiée d'indigne par Bruno Le Maire. Et puis 13 djihadistes français livrés à la justice irakienne. Ces terroristes présumés seront jugés par Bagdad. Un rapatriement en France n'est pas à l'ordre du jour.
Europe 1.
La situation est maîtrisée, mais les pompiers restent mobilisés en Corse. Ils luttent toujours contre la série d'incendies qui a ravagé plusieurs milliers d'hectares de végétation depuis samedi soir, dont plus de 1200 à Calenzane, près de Calvi, où 150 pompiers, aidés notamment par deux Canadairs, restent en place. Plus aucune habitation ou exploitation agricole n'est menacée, mais il reste encore des points chauds tout près de la forêt de Bonifato, une zone difficilement accessible. Sur place pour Europe 1, Justin Morin.
3000 hectares de forêt, des pins maritimes, des chênes verts, des oliviers, entouré d'un maquis très sec, il n'a pas plu depuis plus d'un mois. À la moindre flamèche, la forêt de Bonifato pourrait partir en fumée. Le feu n'est pas très loin, les 150 pompiers présents font donc tout ce qu'ils peuvent pour éviter que les flammes n'atteignent cette zone située dans la montagne. Un travail très compliqué puisqu'elle est difficilement accessible. Avec l'aide des techniciens de l'Office national des forêts, des voies ont été défrichées afin de pouvoir faire passer les lances à incendie. Des pompiers ont aussi été héliportés sur les foyers encore actifs et ce travail devrait se poursuivre aujourd'hui selon le commandant des opérations de secours, le lieutenant-colonel Rigaud.
Notre objectif, c'est de préserver au maximum cette ligne de crête. C'est une forêt très dense, c'est une forêt de résineux avec plusieurs couches de végétation qui se superposent. Et effectivement, le feu se propage très vite et techniquement est difficile à éteindre. Voilà, donc pour nous, c'est le type de végétation qui nous pose problème.
Jusqu'à présent, les vents forts soufflant jusqu'à 90 km par heure ont rendu les opérations très périlleuses. Mais selon Météo France, la journée devrait être plus calme. Les pompiers comptent bien en profiter pour enfin mettre un terme à cette série d'incendies. À Calenzana, Justin Morin, Europe 1.
Et le maire de Calenzana annonce son intention de porter plainte aujourd'hui. Il dénonce un feu criminel. Pour l'heure, la cellule d'investigation penche vers une origine humaine accidentelle ou volontaire. Des écobuages mal maîtrisés, c'est-à-dire des débroussaillements par le feu, pourraient aussi être à l'origine de l'incendie. La douloureuse confirmation pour les 850 salariés de l'usine Ford de Blanquefort près de Bordeaux. Le site qui fabrique des boîtes de vitesse va bien fermer, confirmation hier du gouvernement. Après le refus par le constructeur américain de la dernière offre de reprise. Attitude qualifiée d'indigne par le ministre de l'économie. Bruno Le Maire estime que Ford doit payer pour que le plan social soit, dit-il, solide. De son côté, Philippe Poutou, délégué CGT de Ford et ancien candidat à la présidentielle, regrette que le gouvernement n'ait pas pu contraindre le constructeur américain à accepter l'offre de reprise du groupe franco-belge Punch. Il appelle l'État à réquisitionner l'usine pour le maintien d'une activité industrielle.
Europe 1, il est 5h03.
Jamais un CEO responsable de l'Église catholique n'avait été condamné pour pédophilie. Le cardinal George Pell, 77 ans, est numéro 3 du Vatican et reconnu coupable de crimes sexuels sur mineurs en Australie. Deux enfants de cœur à Melbourne dans les années 90. On l'apprend seulement maintenant, mais la décision date de décembre. Luc Besson ne sera pas poursuivi, plainte classée sans suite par le parquet de Paris après 9 mois d'investigation. Une comédienne accuse le réalisateur de viol. Dans la foulée, hier soir, le parquet a confirmé l'ouverture d'une autre enquête sur des faits d'agression sexuelle présumés. Survenus en 2002, ils sont prescrits, mais font l'objet de vérifications.
La menace de l'État islamique persiste. Les mots sont du président irakien en visite hier à Paris.
Le groupe terroriste est à son crépuscule en Syrie, mais cela ne signifie pas la fin de la menace. Le président irakien qui a par ailleurs annoncé la remise par les forces kurdes de 13 Français soupçonnés d'être des membres de Daesh. Remise à la justice irakienne, ils seront jugés selon les lois en vigueur à Bagdad. Marguerite Lefebvre.
Le président irakien Bahram Saleh l'a confirmé à l'issue de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Cette question des djihadistes français a bien sûr été évoquée. 13 d'entre eux qui étaient jusque-là détenus par les Kurdes en Syrie ont bien été transférés. Ils ont été remis aux soldats irakiens.
13 éléments de Daesh ont été remis aux autorités irakiennes. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes contre notre pays et sur notre territoire. Ces djihadistes seront donc jugés en Irak, selon la loi irakienne. C'est dans ce cadre que nous agissons.
C'est donc à Bagdad désormais d'ouvrir ou non des procédures judiciaires à l'encontre de ces Français qui restent pour le moment emprisonnés en Irak. Leur rapatriement en France n'est pas à l'ordre du jour. Sur cette affaire d'ailleurs, Emmanuel Macron a refusé de s'exprimer. Il a botté en touche. C'est à l'Irak de décider des procédures. Voilà ce qu'a déclaré le président français. Alors que la France cherche toujours la bonne solution sur cette question du rapatriement des djihadistes. Une question qui continue encore d'agiter la classe politique.
Marguerite Lefebvre, les opérations de nettoyage devraient prendre plusieurs mois dans les Yvelines. Après une fuite d'hydrocarbures rarissimes qui a envahi entre 4 et 7 hectares de champs et de rivières, un pipeline s'est rompu. Des camions de pompage sont sur place ainsi que des engins de chantier pour retirer la terre polluée. Le groupe Total assure prendre en charge la totalité du coût des opérations. Et puis on apprend ce matin le décès de Mark Hollis, 64 ans, musicien, chanteur britannique, celui du groupe Talk Talk. It's a shame.
Souvenir de Boom, pour moi, vous ne pouvez pas imaginer.
Such
hein.
A shame.
Je suis Mike hyper
Hollis
triste.
Ouais. Avec Talk Talk, 1984.
1984 ?
Je ne l'ai pas dit.
Non, ah non, je vais pas. Vous avez mal compris en boom alors. Non, non, j'ai déliré complet là.
Non, mais c'était quand vous faisiez les vieux titres en boom, vous passiez les vieilles chansons.
Anissa Dadi, vous allez sortir de ce studio, ça va être vite vu.
Bah, si, merci, bonne semaine Anissa.
Si c'est possible. Hein.
Oui, c'est possible. Arrêtez. Jérôme, j'allais dire, vous êtes le collègue idéal, j'avais marqué ça sur ma feuille, en fait, ouais, pas voilà. Du tout, mais toujours d'humeur égale, hein, alors que je sais que vous souffrez dans votre fort intérieur de l'absence de Céline Dacosta, mais n'ayez crainte. J'ai peut-être une solution pour vous, Jérôme, ou plutôt le docteur Ichou a une solution, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Place au journal des sports. Et à la une dernière coupe.
La dernière coupe que peuvent conserver cette saison les footballeurs du PSG. C'est la Coupe de France dont ils sont quadruples détenteurs. Alors jusqu'à il y a peu, ils détenaient aussi la Coupe de la Ligue, mais qu'ils ont récemment perdu contre Guingamp. Pas question de perdre aussi la Coupe de France. Quart de finale ce soir contre Dijon, affiche déséquilibrée. Les Dijonais sont avant-derniers de la Ligue 1. Alain Roche, consultant foot d'Europe 1.
Ça semble le match facile, ça devrait être un match facile. Maintenant, Thomas Tuchel est obligé de faire tourner aussi son effectif comme il a su le faire lors du dernier match avec brio. Mais Dijon, extrêmement diminué, n'a pas la tête à mon avis à cette coupe. D'autres choses à penser en ce moment, c'est sauver sa tête en Ligue 1. Donc je vois une équipe, bien sûr, de Dijon qui ne voudra pas encaisser un wagon, mais qui devrait être bien en dessous de ce qu'on peut attendre et un PSG qui va sûrement survoler ce match.
Alain Roche avec Simon Rubin. Et effectivement, comme Alain Roche le disait, des joueurs comme Mbappé, Verratti, Dani Alves pourraient être laissés au repos ce soir. Turnover, comme on dit dans le jargon. Coup d'envoi de ce PSG Dijon, 21h10. En Ligue 2, les Lensois s'emparent de la 4e place du classement après un large succès hier soir, 4-1 contre Niort. C'était le dernier match de la 26e journée. Les Niortais sont 11e.
Alors, retour plus compliqué que prévu pour Roger Federer.
Oui, le champion suisse du tennis. Alors, il n'avait plus joué en tournoi depuis son élimination de l'Open d'Australie le mois dernier. Il est en rodage. Il est entré en lice au tournoi de Dubaï hier. Il a gagné, j'ai fait durer le petit suspense, il a gagné. Mais il a lâché un set voilà, face à l'Allemand Cole Schreiber, 31e mondial.
Vous êtes bête, hein. 6-4, j'y ai cru moi.
3-6-6-1, c'était fait exprès. Prochain tour pour Federer face à l'Espagnol Verdasco. Et s'il s'imposait à Dubaï, hein, Federer, on le rappelle, ce serait le 100e titre de
il
sa carrière.
Il va s'imposer. Le chiffre du jour, hein, Jérôme Lacroix.
0.
Ah bah bravo.
Depuis dimanche, figurez-vous, plus aucun entraîneur de foot français n'est présent à la tête d'un club dans les 4 principaux championnats étrangers. Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, et ce depuis le limogeage donc dimanche de Claude Puel qui officiait à Leicester. Depuis aussi les départs d'Arsène Wenger d'Arsenal et de Zinedine Zidane du Real Madrid, ça c'était l'année dernière. Aucun entraîneur français dans les 4 grands championnats européens. Une première depuis 23 ans, 1996.
C'est pas joyeux.
Bah oui.
Bah oui.
Bah
bon, mais merci quand même. Merci Jérôme pour ce premier journal des sports de la matinée. On vous attend dans quelques minutes pour notre revue de presse.
Il est 5h08, Eva Rock.
Debout les copains continue avec le point météo de Laurent Cabrol, suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Des articles qui ont retenu notre attention, tout autant que ces gens qui ont fait le choix de changer de vie, envisager une nouvelle vie professionnelle et trouver du sens à son existence. C'est le cas de Céline, directrice opérationnelle avant, gérante d'une entreprise de plomberie après.
Il est 5h09, Eva Rock.
Debout les copains se poursuit sur Europe 1 avec mes deux acolytes, Anissa, Dadi et Aurélien Fleureau. Et Laurent Cabrol, évidemment. Qu'est-ce qu'on met comme pull ou pas pull, en fait?
C'est ça la question. On s'habille ce matin quand même, parce que nous avons du moins 3 côté de Nevers, Charleville.
Ah
oui. Nous avons du moins 2 à Luxeuil, moins 1 à Mulhouse, 1 degré à Rennes, 2 à Caen et Lyon, 3 à Lille, 4 à Bourges, vous êtes toujours habillé, 5 à Marseille, 6 à Brest, 9 à Paris, on commence à s'effeuiller, et 11 à Nice, on vient presque en short. Voilà.
Et cet après-midi?
Et cet après-midi, c'est pas mal, c'est un peu comme hier, même peut-être un peu plus doux, entre 16 et 19. 19 à Paris, au lieu de 17, vous voyez, ça monte. Et 21 à 24 au sud, 24 à Biarritz et Albi.
Oh bah on enlève les pulls, là, Laurent.
Là, bah oui,
ah oui, on est d'accord.
Carrément. Hein,
merci
et puis,
beaucoup.
Et puis, il fera très beau, bien sûr.
Ah oui, bah, c'était, la question était induite, oui, c'est vrai. Vous revenez juste avant 5h30 pour une météo complète.
J'essaie de trouver des nuages.
D'accord. Pas trop.
Ou pas.
Anissa, un petit tour du côté des auditeurs. Oui. Vous nous rappelez la question du jour sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Bon, on parle du salon de l'agriculture sur Twitter. On vous demande quels sont vos souvenirs d'enfance à la ferme ou pas. Quels sont vos animaux préférés? Alors Jean-Seb nous dit « Bonjour la team de Debout les copains. Enfance dans mon village de viticulteurs. Souvenir d'un cheval de trait, Poupoule, qui était en retraite à pas avoir
comme
travaillé longtemps dans les vignes. » Mais qui faisait le bonheur des enfants du village avec des balades et des soins. Bonne émission à tous, merci Jean-Seb. 20-20, alors 20-20 lui,
notre ami 20-20,
il nous dit « J'avais 8 ans,
oui.
J'ai le souvenir d'une scène de copulation entre un âne et une vache. » Donc déjà rien que ça, c'est traumatisant. « J'avoue que ça m'avait traumatisé. Et en plus, l'âne s'appelait Rocco et la vache Chantal, tout ça est véridique, il nous dit.
Mais en plus, je suis sûre que c'est vrai. Ah bravo.
Merci.
C'était vraiment un âne, ça. Ouais, il était un peu fatigué.
Bah,
cette
c'était Rocco. Hein.
Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Merci beaucoup.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui tente de mêler sans en mêler bonne humeur et actualité. Chaque matin à cette heure-là, sur Europe 1, nous donnons la parole à des hommes et des femmes qui ont osé changer de vie, des parcours inspirants comme celui de Céline Brie de La Rochelle. Directrice opérationnelle pendant 20 ans, elle est licenciée il y a 4 ans, l'occasion de réfléchir à une autre orientation. Elle choisit alors le bâtiment.
Fallait oser. Ça fait déjà des années que je disais qu'un jour je travaillerais dans le bâtiment. Certains font du sport le week-end, moi je faisais du bricolage. Hein. J'aime le travail manuel et puis c'est très concret. On a la satisfaction lorsque c'est fait de voir ce qu'on a réalisé. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les postes comme ceux que j'ai occupés où c'est essentiellement du management. Je suis sortie de mon dernier job et ça a été le déclic pour moi de dire plus jamais numéro 2. Puisque généralement, j'étais souvent numéro 2. Et je vais faire pour moi maintenant ce que je fais pour les autres. Et donc, racheter une entreprise dans le bâtiment.
Et Céline se retrouve donc en CAP à 45 ans. Elle se forme chez un chauffagiste pendant un an avant de racheter une petite entreprise de plomberie. C'était en 2017.
Oui, et elle se spécialise dans les travaux de canalisation, l'installation de salles de bain par exemple. Et ce qu'elle aime, c'est le contact avec les clients, leur apporter des conseils d'aménagement et répondre à leurs besoins. Et pour ça, elle ne s'arrête jamais.
C'est pas du tout la même vie. Je ne ferai pour rien au monde marche arrière. Ça, c'est clair. Je suis ravie de ce que je fais. C'est ce que je voulais. C'est très concret, c'est très riche. Il ne faut pas compter ses heures. C'est clair que depuis un an et demi, moi, je fais du 7 jours sur 7. Très honnêtement, j'espère que d'ici quelques mois, je pourrai au moins récupérer le dimanche. Parce que, par contre, c'est fatigant, réellement fatigant physiquement. Mais c'est passionnant.
Donc on l'entend, Céline, elle est débordée, mais elle gère d'une main de maître sa petite entreprise et son équipe d'ouvriers et elle ne regrette absolument rien.
Et si vous aussi, vous avez changé de métier, que vous voulez nous faire partager votre expérience, vous savez comment ça se passe, un petit mail ou un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h13, Eva Roque.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où toute l'équipe se mobilise pour vous délivrer l'essentiel de l'actualité sans jamais se départir de sa bonne humeur. De la bonne humeur et des sourires, il y en a eu la semaine dernière au Palais des Sports à Paris. Patrick Bruel entamé son tour 2019 dans une salle affichant complet avec ses anciens tubes et des extraits de son nouvel album comme « Pas eu le temps ».
Il est 5h16 sur Europe 1. Et voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Eva Roque.
La douloureuse annonce pour les 850 salariés de l'usine Ford de Blanquefort, près de Bordeaux. Le site va bien fermer. Confirmation hier du gouvernement après le refus par le constructeur américain de la dernière offre de reprise. Attitude qualifiée d'indigne par le ministre de l'économie. Jamais un si haut responsable de l'église catholique n'avait été condamné pour pédophilie. Le cardinal Georges Pell, 77 ans, est numéro 3 du Vatican et reconnu coupable de crimes sexuels sur mineurs en Australie. Deux enfants de cœur à Melbourne dans les années 90. Kim Jong-un est arrivé au Vietnam après un long voyage en train à travers la Chine. Le dictateur nord-coréen doit rencontrer Donald Trump. Ce sera demain à Hanoï. Et puis, premier quart de finale de la Coupe de France de foot ce soir. PSG Dijon, coup d'envoi à 21h10.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce mardi. Anissa et Aurélien, c'est l'heure. L'heure de la séquence préférée de Mathieu Noël.
Le cheval, c'est génial.
Eh oui, le cheval, c'est génial. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Eva, il y aura des courses cet après-midi à Auteuil et mon pari gagnant sera le 102 Dindin. Après un repos bien mérité cet hiver, il n'a pas raté sa rentrée le 11 février à Angers en s'imposant sans aucune émotion. Direction Auteuil, le temple de l'obstacle où sur sa lancée et face à une opposition bien plus relevée, il va tenter de franchir un nouveau palier avec l'aide de son jockey préféré, Clément Lefebvre, et ces deux-là n'ont jamais terminé plus loin qu'à la troisième place. Alors notez bien, pour cet après-midi à Auteuil, réunion 1 dans la première course, le numéro 2, Dindin.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Roque.
Ils sont dissipés, mais vous êtes bien
c'est
sur Europe 1.
C'est Dindin qui les fait rire.
Oui, c'est ça. Et vous écoutez bon, Debout les copains. Jérôme Lacroix vient de nous rejoindre dans le studio avec Anissa, Aurélien et donc Jérôme. Autant vous dire que nous sommes réveillés parce que depuis plusieurs heures, nous étudions en détail la presse du jour, nous terminons d'écrire. Alors certes, quelques cafés nous maintiennent en éveil, mais sincèrement, on est plutôt au taquet. Vous êtes d'accord, les amis?
Oui, absolument.
Ce qui est généralement loin d'être le cas de Mathieu Noël.
Oh,
il bat, il s'étire pendant que nous on trime. Et c'est d'ailleurs l'heure de notre pressing, la revue de presse en mode zapping. Et ce matin, à la une de vos quotidiens, il est question d'alcool, d'impôts et d'Algérie. Le Parisien se pose en effet une question, ou plutôt nous pose une question. Alcool et vous, êtes-vous dépendant? Les épidémiologistes, je savais que j'allais avoir du mal, appellent les consommateurs à une grande modération. Le Figaro titre « Impôts, le grand débat vire à la grande confusion ». Quant à Libération, le quotidien a choisi de s'intéresser à la situation en Algérie avec un mot, l'étincelle, alors que les étudiants appellent à manifester aujourd'hui contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Mais vous, qu'avez-vous retenu dans la presse aujourd'hui? On commence avec vous Aurélien.
Oui, et je vais vous parler musique grâce à un article du Figaro qui fait le constat que l'écoute en streaming sur les plateformes permet à des artistes français de cartonner à l'étranger. Ils sont une quarantaine à avoir été disque d'or en 2018, donc c'est une bonne dizaine de plus déjà qu'en 2017. Alors, on va réviser. Oui. Disque d'or, c'est...
C'est quoi? C'est 70 000 ?
50 000.
50 000.
Ça a baissé un petit peu.
C'est vrai,
voilà.
C'est vrai.
Disque de platine.
100 000.
Voilà, un point pour Anissa. Et disque de diamant, c'est
200 000.
500 000.
Ah, 500 000. Non,
c'est plus, 500 000. C'est plus compliqué.
Diamant, ouais.
Et ce papier du Figaro commence par un exemple frappant. Si je vous dis thèse cadet.
Aucune idée.
Ouais. TSKD.
Alors c'est plutôt normal, mais sachez que ce DJ originaire de Lille a cumulé près de 3 milliards de streams, soit l'équivalent de 58 disques de diamants, 3 milliards d'écoutes pour un titre sorti il y a 4 ans qui s'appelle Sève.
Le morceau, mais pas...
Et ça a surtout cartonné en Chine, c'est pour ça que c'est pas une star en France, il a surtout marché en Chine. Donc voilà, l'électro, c'est souvent ça qui permet à des artistes français de se faire connaître sans la barrière de la langue, évidemment. L'un des exemples les plus connus, c'est bien sûr David Guetta, près d'un million de ventes en 3 mois hors de la France pour son dernier album. Et puis pour certains artistes comme Petit Biscuit, par exemple, la France.
On adore.
Hein. Sunset Lover.
Eh oui.
Super. Alors pour le coup, lui, il est connu en France. Mais avec ce tube Sunset Lover.
Pour le coup, je pense qu'il est plus connu à l'étranger encore qu'en France aujourd'hui.
Exactement. Ouais.
Notamment aux États-Unis où les concerts affichent complet.
Il fait des tournées qui cartonnent effectivement. 15 à 20% de ses revenus sont en France. Et donc maintenant, il s'adresse directement au marché mondial. Mais il n'y a pas que l'électro. Hein. Carla Bruni s'exporte très bien. Disque d'or en France, mais disque de platine à l'international pour son dernier album. Et dernier exemple, Aya Nakamura. Alors elle cartonne aussi en France depuis quelques mois. Mais elle est aussi devenue numéro 1 aux Pays-Bas. C'est du jamais vu pour une artiste francophone depuis Edith Piaf. Oh, dja, dja, y a pas moyen, dja, dja.
J'suis pas ta cata, dja, dja, genre. Je pense qu'en France, il y en a qui l'ont découverte au moment des Victoires de la Musique, c'est-à-dire il y a 3 semaines.
Ah, ça a été le tube de l'été. Hein,
ça a été le tube de l'été, c'est vrai, c'est vrai. Merci Aurélien, c'est-à-dire dans le Figaro.
Exactement.
Anissa ?
Alors moi de mon côté, Eva, c'est dans les pages d'aujourd'hui en France que j'ai décidé de vous emmener en Normandie. Grâce à ce journal, nous allons dans le Calvados, à Trouville-sur-Mer, parce que la ville...
J'arrive pas à
bien.
Vous prendre au sérieux, c'est horrible, parce que je sais déjà que vous allez trouver l'article qui va me faire rire. Quoi.
Non mais alors écoutez bien, la ville de Trouville a décidé de ne plus jeter les coquilles de ses huîtres et de ses Saint-Jacques. Eh ouais, Trouville est un des principaux ports coquillés de la région, et du coup les restaurateurs jettent chaque jour des milliers de coquilles pour éviter ce gâchis. Pascal Cordier, qui est l'adjointe au maire chargé de l'environnement, elle a peut-être trouvé la solution. Alors je sais Eva que vous allez me proposer des solutions, vous allez me proposer de faire des cendriers, voilà, avec les Saint-Jacques. Aurélien et Jérôme m'ont déjà offert 2 très beaux colis en coquille d'huître, mais malheureusement ça ne va pas suffire, parce que la ville de Trouville, elle a eu des idées encore plus étonnantes et très utiles, faut bien l'avouer. En effet, il y a eu un partenariat qui a été signé il y a quelques mois maintenant avec une start-up française qui s'appelle Friendly Frenchy, qui fabrique des montures de lunettes à base d'huile végétale de coquilles d'huîtres. 1000 paires ont été créées l'an dernier et une nouvelle collection là va sortir dans quelques jours en solaire et en optique.
Elles sont jolies ?
Elles sont très jolies. En fait, ce sont des lunettes classiques, sauf qu'effectivement, elles sont fabriquées en plus, c'est écolo. Elles sont fabriquées en coquilles d'huîtres et de Saint-Jacques. Alors, pour les élus de la ville, ce n'est que le début. Ils ne vont pas s'arrêter aux lunettes. Il y a beaucoup de projets comme des engrais, des produits alimentaires pour les poules, mais aussi des meubles en coquilles Saint-Jacques et en coquilles d'huîtres qui sont en cours d'élaboration pour recycler ces fameuses coquilles. Alors, la seule et principale difficulté pour l'instant, c'est que les entreprises qui proposent tous ces projets sont loin de la Normandie. Et donc, les déchets...
taxe carbone
Alors,
à faire
taxe
revenir.
Carbone, mais ouais. aussi et surtout les déchets qui sont encombrants. Il faut conditionner ces coquilles, il faut les laver, il faut les broyer. Tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc, la ville de Trouville, elle est actuellement à la recherche d'une filière plus proche de la Normandie. Donc, on lance un appel. Hein, peut-être
Bien
que
sûr.
Si vous avez une entreprise et que vous avez des idées, vous n'êtes pas loin, allez-y. Et Trouville espère d'ici un an que toutes les coquilles, mais toutes les coquilles utilisées dans l'année serviront à fabriquer des choses utiles et qu'elles ne seront plus jamais jetées.
Jérôme, on n'avait pas évoqué les coquilles de moules pendant la grande braderie
absolument,
de Lille.
Qui sont réutilisées de mémoire pour
aussi,
faire du carrelage.
C'est ça, ouais, exactement.
Ouais, et une petite info en plus, si jamais vous mangez des huîtres et que vous avez des petites poules à la maison, il faut leur donner parce que ça fait des coquilles d'œufs hyper solides après.
Ah bon, d'accord, ouais, très bien. Merci Anissa, on passe à Jérôme Lacroix.
Bah oui. Petite partie d'un mythe qui s'effrite ce matin au fil des pages de France Football qui paraît aujourd'hui. Long reportage, 3 pages, signé Eric Frozio. Le titre, Brésil, la vie brisée des anges. C'est l'histoire des conditions parfois exécrables dans lesquelles vivent des jeunes, voire très jeunes ados dans les centres de formation des différents clubs de foot du pays. Ces jeunes à la recherche de leur rêve au pays du foot, un 5 fois champion du monde. Alors tout part d'un drame. Une funeste nuit au début du mois, 10 jeunes entre 14 et 16 ans morts dans l'incendie de leur dortoir. Ça se passe au centre de formation de Flamengo. Flamengo,
un
club de Rio de Janeiro, l'un des plus grands clubs du pays. Et le drame met en lumière les conditions honteuses d'hébergement. Ils étaient au total 26 logés dans guère mieux qu'en container. France Football a recueilli le témoignage d'un jeune Français qui a fréquenté ce centre d'entraînement de Flamengo, qui s'appelle Ryan Belaïde. Il décrit des bâtiments provisoires pour loger les jeunes, les vestiaires, un banc, c'est presque tout. La cantine, sur le plan de l'hygiène, c'était vraiment limite. En fait, c'est ce qu'il dit, il poursuit. Seules les pelouses et les ballons étaient au top niveau. Bah oui, on est au pays du foot, mais enfin, c'est quand même... Et là, comme je le disais, on est dans un grand club. Alors imaginez, dans les plus petites structures, le football de base. Les syndicats de joueurs, dit France Football, dénoncent la situation depuis longtemps. Mais le champ d'action des autorités, il est d'abord réduit parce que les organes de contrôle sont très peu armés. Qui plus est, le cadre légal est très mal défini. Alors il existe une loi, la loi Pelé, qui date de 1998, elle oblige les centres de formation à fournir logement et scolarité, mais sans préciser aucune condition.
Ah oui.
Alors du coup, les clubs, ils se moquent de la salubrité, l'hygiène ou le confort. Ils pensent qu'à dénicher la pépite. Alors du coup, ils entassent les gamins dans les dortoirs, dans les centres de formation. Et les parents, ils disent oui, parce qu'ils espèrent que leur progéniture les sortira de la misère, tout simplement. Les joueurs, les anciens, commencent à essayer de faire bouger les choses en demandant aux jeunes dans les centres de formation de publier sur Internet des photos de leur chambre. Je suis allé voir et la plupart du temps, ça ressemble plus à des cellules de prison surpeuplées.
Oh, nous sommes loin quand même des strass et des paillettes du football mondial.
Tout ça
quand
passe
même.
Au
Merci beaucoup. C'est un article à lire dans France Football, c'est
France
ça.
Foot, ouais.
Merci les amis. Le pressing referme ses portes. Réouverture des portes demain, même endroit, même heure, sur Europe 1, évidemment.
Europe 1. Il est 5h26, c'est Varoc.
Debout les copains se poursuit avec la météo et le journal d'Hélène Zellani. Délicat réveil à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, il est 5h27, Eva Roch.
Laurent Cabrol, un petit point sur la météo de ce 26 février.
C'est du beau temps.
Mais oui, et c'est bien.
Avec des températures qui, comme hier d'ailleurs, sont très basses ce matin. C'est-à-dire que nous avons du moins 3, du moins 2, alors Luxeuil, Nevers, Charleville, du 0 à moins 1, Mulhouse, Rennes, Strasbourg, Nancy, c'est pas terrible, 1 degré. 2 à Clermont-Ferrand, 3 à Lille, 5 à Marseille, 6 degrés à Besançon et Nantes, 9 à Paris et 11 degrés à Nice. Voilà, et dans la journée, c'est pas mal, c'est toute la moitié nord avec plus de 20 degrés.
C'est bien.
Oui, enfin, pas plus d'un degré. C'est jusqu'à 20 degrés. Ça passe de 15 à 20 degrés pour la moitié nord. Et puis sur la moitié sud, c'est entre 20 et 24 degrés.
Avec du soleil partout, j'imagine.
Avec du soleil, je n'arrive pas à trouver un nuage. Je suis désolé, j'ai cherché.
Vous avez bien
cherché. C'est pas grave.
J'ai même pas trouvé. Si deux brouillards, il y en a un à Rennes et puis
si
un à
Avignon. Si vous pouviez ne pas en trouver jusqu'à la fin de la semaine, je sais que vous allez me répondre non,
non
tout de suite.
C'est pas
mais
possible,
quand même.
Puisque demain, il fera encore très beau et très chaud. Et puis à partir de jeudi, et surtout de vendredi, et surtout de samedi et dimanche, bien là, le mauvais temps revient. Enfin, le mauvais temps, celui qu'on appelle mauvais, mais qui est bien pour ceux qui ont envie de pluie, parce qu'on n'a pas suffisamment de pluie. Et je vous parlerai tout à l'heure de ces pseudo-records dont on nous bassine maintenant depuis plusieurs jours, qui ne veulent rien dire, parce que les records ont été largement battus déjà dans les années 60, 80, etc. Vous dire que c'est quand même exceptionnel, mais ça n'est pas extraordinaire, n'est-ce
très bien.
Pas
eh bien,
n'est-ce
on
pas
a bien retenu la
leçon. Il y a
eu
5 février qui ont été plus chauds que celui-là depuis 1960. D'accord ?
D'accord. Voilà. Ok. Oui, chef. Merci.
Noté.
À tout à l'heure.
Europe 1. 5h, 7h. Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui tente un pari conjugué info et bonne humeur. À suivre les conseils culturels et technologiques de la bande de Mardi les bons tuyaux avec au programme une nouvelle de Stephen King gratuite, une mini-révolution dans l'univers des jeux vidéo et un petit garçon de 10 ans qui force le respect. Auparavant, le docteur Ichou nous parlera émotion et chagrin d'amour. Y a-t-il un remède pour ça ? Pas si sûr.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. 7h, Eva Roch sur Europe 1.
Les infos de ce mardi 26 février 2019. Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Une pollution aux hydrocarbures, accident rarissime dans les Yvelines. Un pipeline s'est rompu et a déversé des milliers de litres de pétrole dans les champs. Les incendies en Corse ne sont toujours pas éteints. 1650 hectares détruits. Le maire de Calenzana près de Calvi compte déposer plainte aujourd'hui. Et puis des températures printanières en plein mois de février. Conséquence, les pollens qui arrivent bien plus tôt que prévu imprévu et empoisonne la vie des allergiques. Europe 1. Plus d'une dizaine d'hectares de champs et des rivières polluées par du pétrole brut. C'est une fuite sur un pipeline qui a été décelé dimanche soir sur le tronçon qui relie le dépôt de Gargenville dans les Yvelines à la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne. Total reconnaît des dégâts importants mais localisés et va se charger de l'ensemble des opérations. Cette pollution touche trois communes des Yvelines, Autouillet, Vic et Boissy-sans-Avoir. Thierry Laurent est directeur de cabinet du préfet des Yvelines.
Ce matin, les équipes de Total poursuivent les opérations de pompage dans les ruisseaux. Et puis, il y a des opérations urgentes pour contenir la propagation du pétrole dans les sols. Il n'y a plus de pression dans le pipeline, mais il y a encore des quantités limitées de pétrole qui continuent à se répandre. Et ces opérations seront suivies d'opérations de dépollution qui vont là durer plusieurs mois. Et puis ensuite, il y a un travail administratif important pour suivre ce chantier qui est un peu hors norme et qui va être assez long.
Le directeur de cabinet du préfet des Yvelines, joint par Romain Noquet pour Europe 1. Pour l'instant, pas d'explication à cette fuite, perforation ou usure. Les hypothèses restent ouvertes. Et puis, pollution toujours, mais dans l'air. Une pollution en particules fines qui continue à toucher l'Île-de-France. La vitesse reste réduite de 20 km/h sur les axes routiers. Alerte aussi dans les Bouches-du-Rhône où des recommandations sanitaires sont lancées pour les personnes les plus vulnérables.
Alors en Corse, Hélène, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour éteindre les incendies.
Et notamment en Haute-Corse, sur la commune de Calenzana, où le maire compte d'ailleurs porter plainte car il est convaincu que l'incendie est d'origine criminelle. En trois jours, près de 1650 hectares ont brûlé au total, heureusement sans faire de blessés. Plus aucune habitation n'est menacée. Le cardinal australien George Pell, condamné dans une affaire de pédophilie numéro 3 du Vatican, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs par le tribunal de Melbourne, des faits commis dans les années 90. C'est le plus haut responsable de l'Église catholique condamné dans ce type d'affaire.
Europe 1, il est 5h32.
Cette fois, les dés sont jetés pour les quelques 800 salariés de Ford à Blanquefort, près de Bordeaux.
Oui, le constructeur américain a en effet refusé la dernière offre de reprise de Punch et le gouvernement a donc entériné la fermeture. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dénonce un comportement indigne de la part d'un grand groupe comme Ford et réclame des compensations financières. Le président irakien l'a confirmé hier à Emmanuel Macron, 13 djihadistes français détenus par les Kurdes en Syrie ont été remis aux soldats irakiens. Ce sont donc les autorités de Bagdad qui vont décider si elles ouvrent des procédures judiciaires contre eux. En tout cas, leur rapatriement en France n'est pas à l'ordre du jour. Il a parcouru 4000 km à bord de son train blindé. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé ce matin au Vietnam. Il doit rencontrer Donald Trump à Hanoï demain. Deuxième sommet pour les deux hommes avec à nouveau à l'ordre du jour la dénucléarisation de Pyongyang. Et puis aux États-Unis, un homme de 71 ans va recevoir 21 millions de dollars d'indemnité, dédommagement des 39 années qu'il a passées derrière les barreaux en Californie pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ce sont les expertises ADN qui l'ont innocenté.
On en parlait il y a quelques secondes avec Laurent Cabrol qui me disait « Oui, c'est exceptionnel, mais c'est pas extraordinaire. » N'empêche que la météo est un peu faux-folle. Encore des températures parfois dignes d'un mois de mai ce mardi. Hein.
Oui, c'est une aubaine hein, pour tous ceux qui ont la chance d'être en vacances et de pouvoir profiter de ce grand soleil. En revanche, une vraie galère pour les allergiques, ces températures printanières. Elle favorise l'arrivée des pollens à tel point que certaines régions sont déjà en risque d'allergie maximum. Claudia Bertram.
Un paquet de mouchoirs à la main, c'est à reculons que Cynthia emmène son fils au parc. Malgré la douceur printanière, la balade sera de courte durée car ses allergies sont de retour.
C'est des crises d'éternuement, un nez qui coule sans cesse et puis les yeux qui brûlent et qui piquent. Le redoux arrive de plus en plus tôt et du coup... Tous les bourgeons et toute la nature suit un peu ce rythme-là et les allergies du coup sont anticipées.
Une ordonnance avant l'heure aussi pour Norandi, dont le rhume des foins a ressurgi il y a 10 jours.
Là on est au mois de février-mars, d'habitude c'est plutôt avril-mai. Là j'ai rendez-vous chez le médecin justement pour avoir des antihistaminiques et pouvoir résorber ça, j'espère.
Et les allergologues comme le docteur Pierre Corbet croulent sous les demandes de rendez-vous.
En ce moment, c'est l'explosion des pollens de noisetiers et d'aulnes. Ce beau temps incroyable que nous constatons depuis 10 jours fait que les pollens ont beaucoup d'avance, 15 jours, 3 semaines, voire un mois. En février, c'est du jamais vu.
Facteur aggravant la pollution, les particules fines font exploser les grains de pollen et amplifient les réactions allergiques.
Claudia Bertram.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zellani. Hélène, je ne vous trahis pas en disant que vous n'aimez pas la viande.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
On peut dire que vous êtes végétarienne.
Ah, totalement.
Eh bien, vous pourriez presque vous entendre avec Mathieu Noël, enfin je crois.
Bah moi j'en mange du tofu parfois quand j'ai mangé trop de poulet. Je mange un peu de tofu. Le soir, je prends plutôt du tofu. Après, du tofu, c'est qu'il y a un peu des hormones féminine dedans. Ça nuit à ma virilité.
N'importe quoi.
On va se faire des tofu partout.
Oh là là. N'importe quoi.
Poulet tofu.
Mais oui. Lui ne mange pas que du tofu. Logique, c'est un sportif. Jérôme Lacroix, c'est l'heure de votre journal des sports.
J'étais pas au courant de ce truc sur le tofu.
Vous l'aviez pas entendu ?
Non, je savais pas.
Ah oui, il adore le tofu.
J'ai arrêté d'en manger.
Jérôme Lacroix, à la une, des balles et des grues. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que ce lancement que vous m'avez écrit là ?
Pour l'instant, plus les grues que les balles. Les grues, les marteaux-piqueurs, les perceuses. Voilà le spectacle en ce moment du côté de Roland-Garros, figurez-vous. Plus précisément, du côté du cours Philippe Châtrier. Parce que l'année prochaine, ça y est, le central du stade du Grand Chelem parisien sera équipé d'un toit. Amovible, s'il vous plaît, on l'a attendu, mais voilà. Ainsi, le cours a été complètement détruit à la fin du dernier Roland-Garros et on est à 3 mois de l'édition 2019. Où en sont les opérations ? Pour l'heure, planning respecté, mais il ne va pas falloir traîner. C'est ce que raconte Gilles Jourdan, le patron des opérations, qui reçoit parfois la visite de joueurs curieux des avancées des travaux.
Les joueurs français, oui, viennent assez souvent regarder. Les joueurs étrangers, pas tellement. Nadal, non, ils sont confiants, hein. Ils ont raison. Bah, la célèbre question, c'est est-ce que ça va être prêt, quoi, voilà. Et donc la célèbre réponse est oui. Je ne joue pas notre réputation. Mais on ne va pas avoir tout bon à 100% au début. Hein. Il y aura des pétouilles, il y aura des choses à rectifier, il y aura des choses à faire. Il y aura des choses dégradées cette année, il faudra faire avec. Mais bon, ça sera à la marge, quoi.
Des propos recueillis par Corinne Boulot, livraison du stade prévue le 15 avril pour un coût de 150 millions d'euros entièrement financé par la Fédération française de tennis. Côté résultat, Roger Federer s'est qualifié hier pour le deuxième tour du tournoi de Dubaï. Victoire contre l'Allemand Cole Schreiber en 3 manches. Le Suisse a tout de même concédé un set. Aujourd'hui, entrée en lice de Gaël Monfils, côté français opposé au Croate Cilic, 10e mondial.
Et on parle Formule 1 parce que c'est bientôt la rentrée.
Et oui, le 17 mars, traditionnel levée de rideau à Melbourne, hein, Grand Prix d'Australie, c'est comme ça chaque année, c'est le temps des derniers réglages. En tests hivernaux, aujourd'hui jusqu'à vendredi, seconde session d'essai, c'est sur le circuit de Barcelone. Il y a déjà eu la semaine dernière 4 jours de tests sur ce même circuit catalan. Alors qui semble pour l'heure l'écurie la mieux armée pour la plongée dans le grand bain du championnat du monde ? On voit ça avec Simon Rubin.
Pour l'heure, l'écurie que tout le monde regarde, c'est Ferrari. La Scuderia a signé les meilleurs temps de la première semaine tout en gardant des réserves, plutôt de bon augure, de l'aveu même de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, hein, les pilotes Mercedes qui ont eu plus de mal à trouver les bons réglages sur leur flèche d'argent. Du côté de Red Bull, l'équipe du français Pierre Gasly, on est rassuré par le moteur Honda. Et puis Renault, l'écurie française, a également le sourire avec un rythme très soutenu toute la semaine. Donc on le voit clairement, ça risque de batailler ferme cette saison en haut de tableau entre Ferrari et Mercedes avec Red Bull, Renault, Toro Rosso, voire Alfa Romeo en outsider.
Simon Rubin, du foot ce soir, premier quart de finale de la Coupe de France, PSG Dijon, 21h10.
Et on termine avec la personnalité du jour,
Jérôme.
J'ai
choisi Valdemar Quitta, c'est le président des footballeurs de Nantes. Et il est actuellement visé par une enquête pour soupçon de fraude fiscale. Et conséquence, eh bien Nantes Métropole enterre le projet de construction d'une nouvelle enceinte pour les footballeurs qui devait remplacer le stade bien connu de la Beaujoire. La situation fiscale de Valdemar Quitta rend impossible la cession d'un terrain public à son profit. C'est ce qu'a annoncé hier Nantes Métropole.
Merci Jérôme Lacroix pour ce journal des sports. Jérôme, je vous conseille de rester attentif à ce qui suit. Vous qui ne vous remettez pas de l'absence de Céline Dacosta, le docteur Ichoua peut-être remède pour mettre à mal ce chagrin d'amour.
Europe 1.
Il est 5h38 et Varoc.
Et vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui chaque matin vous informe, vous offre sourire et bon conseil. Et il sera donc question avec le docteur Ichoua d'une pilule du bonheur. Ouais, donnez-lui vite un cachet, ça ira mieux après. C'est
Europe 1. Il est 5h40, Eva Roque.
Vous écoutez Debout les copains, il est l'heure de retrouver Laurent Cabrol. Laurent, quoi de neuf du côté du ciel ?
Rien depuis tout à l'heure.
Toujours pas de nuages.
Il fait toujours beau, mais pour ceux qui ouvrent un œil, je voudrais leur dire qu'il fait entre moins 3 et plus 9. Paris est l'une des villes les plus chaudes en ce moment, avec 9 degrés. Et Nevers-Charleville les plus fraîches, avec moins 3. Et dans la journée, 15 à Cherbourg, 16 à Belfort, 18 à Caen et Lyon, 19 à Paris et à Lille, 20 à Marseille, 22 à Toulouse et 24 degrés à Biarritz. Et si vous me laissez un petit peu de temps tout à l'heure, je vous dirai comment, en 1960, on a battu le record absolu de température en France en février, 31,5 degrés.
Ah ouais.
Je vous parlerai de la météo de la pompe à bicyclette.
Vendu. On vous attend tout à l'heure. Merci Laurent. Anissa, comment ça se passe sur Twitter ?
Ah bah sur Twitter, vous êtes très nombreux à nous parler de votre salon de l'agriculture parce qu'Europe 1 vous fait vivre ce salon tout au long de la semaine. Alors on vous a demandé quels sont vos souvenirs de la ferme, vos animaux préférés. Dim72 nous dit « La traite des vaches, ramasser les œufs des poules, faire les foins, c'était bien sympa ma jeunesse à la campagne dans l'Ain. » Il y a beaucoup de messages de retour en enfance. Sébastien nous dit « Bonjour à toute la team, mes meilleurs souvenirs de la ferme, ils sont toujours toujours d'actualité, c'est d'entendre le chant du coq et de regarder les vaches brouter l'herbe dans les champs.
C'est trop mignon.
Mais oui, c'est
merci
génial.
Merci beaucoup. Vous continuez à réagir ouais, sur Twitter. Pardon, je vous ai coupé, Anissa.
Non, allez-y, continuez. Hashtag Europe 1. On lit vos messages.
Exactement.
On adore.
Merci, Anissa.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
C'est l'heure de notre point santé. Et ce matin, nous allons parler d'amour et de pilules. Bonjour docteur Ichou.
Bonjour Eva.
Il y a quelques jours, on apprenait qu'un médecin tentait de mettre au point une pilule contre les chagrins d'amour. C'est merveilleux, non ?
Ben, vous trouvez ?
Non, en fait non. Je sens que nous allons être d'accord.
Non, on nous vend du bonheur en pilule. Effectivement, quand on a une émotion, il y a une succession de réactions chimiques dans notre organisme qui vont modifier notre fonctionnement cardiaque, la stimulation de nos hormones, notre sommeil, voire même entraîner du stress. On peut effectivement avoir à traiter ces symptômes quand ils deviennent pathologiques, si ça vous met dans une situation, encore une fois, de maladie. Mais en revanche, imaginez qu'on va traiter toutes nos émotions, gommer tout sentiment négatif, est une déshumanisation.
C'est quand même bien de ne pas souffrir.
Eh bien non, je ne crois pas, mais c'est pas ça. Imaginez un monde dans lequel il n'y aurait aucune alternance d'émotions négatives. La vie ne serait qu'une chimère, l'art n'existerait pas. Vous imaginez bien les grandes œuvres qui ont été faites à partir d'un chagrin. Le bonheur n'est pas de n'être jamais confronté au malheur. La vie ne serait vraiment qu'un long fleuve tranquille, mais
on
vraiment ennuyeux.
Oui. On ne fait pas son deuil quand on perd un être cher. On chérit sa mémoire et il n'est pas question de l'oublier avec des pilules.
Oui.
Hein, c'est ce que vous dites. Hein.
Oui, ouais. Faire son deuil, ça paraît être vraiment quelque chose d'absolument insensé parce que, encore une fois, quand on perd quelqu'un ou quand on a un chagrin d'amour, ben il faut le vivre et on se reconstruit, mais on ne fait pas son deuil.
Merci beaucoup docteur Ichou et rendez-vous demain pour un nouveau point santé.
Europe 1.
Il est 5h43, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'informations et de sourires que nous espérons contagieux avec à mes côtés Anissa Haddadi et Aurélien Fleureau. Après les conseils santé, place au conseil culture et technologique avec la bande de Mardi les bons tuyaux. Il sera question de littérature, de consoles et d'une vidéo craquante à partager. Autour de vous, Nicolas Carreau, Clément Le Saffre et Aurélien Fleureau terminent leur café avec un peu de musique pour que ce réveil soit encore plus agréable. Une chanson venue d'Australie et portée par un jeune homme de 31 ans, Be Alright, par Dean Lewis sur Europe 1.
Il est 5h46. Et voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Eva Rock.
La situation est maîtrisée, mais les pompiers restent mobilisés en Corse. Ils luttent toujours contre la série d'incendies qui a ravagé plusieurs milliers d'hectares de végétation depuis samedi soir, dont 1200 à Calenzane, près de Calvi, où 150 pompiers aidés par 2 Canadair restent en place. Le maire envisage de porter plainte. Les incidents sont, selon lui, d'origine criminelle. Luc Besson ne sera pas poursuivi. Plainte classée sans suite par le parquet de Paris après 9 mois d'investigation. Une comédienne accuse le réalisateur de viol. Et puis premier quart de finale de la Coupe de France de foot ce soir, PSG Dijon, coup d'envoi 21h10.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 26 février 2019 et nous partons tout de suite du côté d'Auteuil, rejoindre José Coves. Bonjour José.
Bonjour à tous, tous à Auteuil et que ça saute. Parmi les 16 spécialistes au départ de la première course, mes 5 favoris. D'abord, le 8 Pagomix en forme lors du meeting de Cagnes. Il a déjà brillé sur ce même tracé. Berjou, le numéro 5, est face à une opposition à sa portée. À Pau, Dancili Prince, le numéro 11, s'est imposé avec la manière. Il est encore capable de se mettre en avant. Le numéro 1, Milchif, est le plus doué. C'est donc un premier rôle. Quant au bipolaire Ciblou, le 12, on misera uniquement sur son bon vouloir. 3 autres possibilités. Le 14, My Boy, il ne déçoit pratiquement jamais. Le 2, Dindin, il vient de se balader en province à fond la forme. Et enfin, le 6, Normandie, Invasion, il est doué pour le saut. En revanche, il doit s'adapter au profil de cet hippodrome. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h45. D'abord le 8, le 5, le 11, là c'est le 12. Et l'on ajoute le 14, le 2 et le 6.
Ici, José, on adore Dindin. Mais il serait logique quand même que le numéro 1, Melchif, le plus doué, soit récompensé.
Milchif, c'est vrai, s'est déjà imposé à 2 reprises lors de ses débuts à Auteuil. À chaque fois, comme un bon élève studieux et perfectible, c'est vrai qu'il a une tête de premier de la classe. Finalement, Eva. Et finalement, Eva.
Non, c'est Eva.
Eva.
Ouais.
Vous avez raison, il mérite le premier prix.
Merci, José Coves. Rendez-vous demain matin.
Il est 5h48.
Europe 1. 5h, 7h. Eva Rock.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains se poursuit avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Aurélien Fleureau pour les écrans, Clément Le Saffre pour les nouvelles technologies et un garçon qui écrit très bien. Car oui, Nicolas Carreau parle bien de littérature, mais il en fait également. Et il vient d'ailleurs de remporter un prix pour une nouvelle que j'ai beaucoup aimé.
Merci.
À quand un roman, Nicolas Carreau?
Ah bah ça.
Quoi
quand
ça
il sera terminé, c'est mon grand roman.
C'est vrai?
Peut-être que je le publierai jamais.
Mais si,
ah, si hein.
Mais si, vous visez le Goncourt, il faut enfin, le publier à un moment donné. En attendant, ce matin, vous avez un cadeau pour nous.
Oui, un cadeau de Stephen King. Il vient de publier son dernier roman, L'Outsider, chez Albin Michel. J'en avais parlé déjà, très bon livre. Mais il publie aussi une nouvelle qui vient d'être traduite en français par Jean Esch. Elle est disponible à partir d'aujourd'hui.
Disponible où?
Sur Internet et gratuitement.
Mais c'est génial.
Elle s'appelle Laurie. Elle raconte l'histoire de Lloyd Sunderland. Il est à la retraite depuis 6 mois, il vient de perdre sa femme. Il reçoit la visite de sa sœur, Bess. Elle s'inquiétait pour lui, alors elle lui a ramené un chien. C'est une femelle, Laurie, très mignonne, border collie croisée avec un moody. Lloyd ne sait pas du tout à quoi ressemble un moody, mais de toute façon, il s'en fiche, il n'en veut pas. Bess débarque chez lui, mais elle lui donne quand même. Il n'a rien demandé à personne, mais Bess a décidé aussi qu'elle irait lui faire des courses parce qu'elle considère que Lloyd se nourrit mal. Elle est un peu envahissante, oui, la frangine. Et donc, elle lui dit, bon, arrête de râler, si t'en veux pas de cette chienne, j'irai la redonner au centre, il leur donne 3 semaines avant de les piquer.
Oula, c'est très très mal de faire culpabiliser comme ça.
Bah oui. Ouais. Mais elle lui dit, je vais faire des courses, tu vas quand même pas me dire que tu peux pas la garder 1 heure le temps que je revienne. Et elle s'en va en laissant Lloyd et Laurie.
Et je sens qu'il va craquer.
Ben vous lirez, je vais pas vous gâcher le plaisir, mais bon, c'est
ah oui, Stephen King. Ah oui.
Il y a toujours un peu plus d'action que prévu. Profitez-en, en tout cas c'est gratuit, 20 pages dédiées au chien de sa femme, Vixen.
Et comment la trouve-t-on cette nouvelle?
Vous tapez Laurie, L-A-U-R-I-E, et Stephen King sur Google et vous devriez tomber dessus.
Merci beaucoup Nicolas, c'est le bon plan de la journée. Oui. À vos côtés, notre nouveau monsieur high-tech, Clément Le Saffre. Clément, ce matin, il est question de jeux vidéo avec une information qui pourrait changer les habitudes des férus de consoles parce qu'il y a une petite révolution qui s'annonce, une sorte d'alliance entre les deux ennemis, Nintendo et Microsoft. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ouais, tous les joueurs de jeux vidéo qui nous écoutent ont peut-être tiqué en vous écoutant Eva, et pourtant oui, bah, ils ont bien entendu, hein. Nintendo et Microsoft pourraient allier leurs forces très prochainement. Ce sont nos confrères de jeuxvideo.com qui nous l'apprennent concrètement. Si vous avez une Switch, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, hein, c'est la
fameuse console
mobile de Nintendo qui fait un malheur, hein, et bien vous pourrez bientôt accéder au Xbox Live. C'est la boutique en ligne de Xbox, la console de Microsoft, et acheter des jeux jusqu'ici exclusifs.
Alors quels sont les jeux qui vont passer d'une console à l'autre?
Bah, dans un premier temps, la Switch accueillera plutôt des jeux indépendants. On part par exemple de Cuphead, c'est un petit jeu d'action déjanté dans un univers de cartoon des années 30, c'est formidable. Et aussi de Ori and the Blind Forest, c'est un jeu de plateforme très poétique, très touchant. Alors ce ne sont pas, je vous l'accorde, les jeux les plus connus, mais les passionnés de jeux vidéo se sont rués dessus, ça s'est très très bien vendu. Et ça pourrait ensuite aller plus loin, puisque Nintendo négocierait l'obtention d'un des jeux phares de la Xbox. On parle ici du jeu de voiture Forza peut-être, ou alors d'un des deux jeux de tir futuristes qui ont fait le succès de la Xbox, Gears of War et Halo. Alors au total, à terme, ce sera des centaines de jeux qui pourraient faire le voyage vers la Switch pour le plus grand bonheur de ceux qui en ont une.
Ça veut dire que ça va multiplier en fait le nombre de jeux qui seront disponibles sur la console, hein. On est bien d'accord, j'ai compris. Hein.
Ah tout à fait, c'est d'accord. Exactement ça Eva.
Mais alors tant mieux pour les joueurs Clément, mais c'est quoi l'intérêt pour Microsoft alors, dans cette histoire
que, hein. C'est vrai que c'est pas très intuitif, hein, dit comme ça, prêter ses jeux sans contrepartie c'est étonnant. Sauf que voilà, Microsoft est à la peine, hein. La Xbox est en train de perdre définitivement la guerre des consoles. Il s'est vendu 40 millions de Xbox One en 6 ans contre 90 millions de PS4, la console de Sony qui est leader sur le marché. Mais voilà, depuis 2 ans, le marché a un peu bouleversé. La console la plus dynamique, c'est la Switch de Nintendo. Il s'en est vendu 30 millions, donc en à peine 2 ans. Et ça représente finalement aux yeux de Microsoft un marché de nouveaux joueurs potentiels assez alléchant, faut bien le croire.
Merci beaucoup Clément. Aurélien, à vous de clore cette séquence. Et je crois que ce matin, c'est une vidéo de quelques minutes qui a attiré votre regard. Il s'appelle Arthur, c'est un petit garçon de 10 ans et il a eu une super idée.
Oui, c'est ça, c'est les petites vidéos format 4 minutes hein, diffusées par la plateforme Brut que vous retrouvez sur les différents réseaux sociaux et même maintenant sur leur site et leur application. Hein, ça existe depuis une dizaine de jours. Et donc depuis à peine 48 heures, il y a l'histoire d'Arthur. Il a 10 ans, il habite Cambrai et il a donc décidé de vendre ses toiles, ses peintures pour venir en aide aux sans-abri. Il a eu cette idée alors qu'il avait tout juste 4 ans. Il s'est dit, moi j'ai envie d'aider ces gens que je vois dans la rue, mais je ne veux pas juste leur donner une pièce comme ça sans trop savoir ce que ça va devenir. J'aimerais récupérer de l'argent et leur acheter quelque chose dont ils ont besoin. Et c'est comme ça qu'il s'est mis petit à petit à aller dans des boulangeries pour leur acheter des sandwichs.
Poulet barbecue, panini. Voilà. Merci. Ça, c'est pour moi et ça, c'est pour le sans-abri.
C'était quand j'étais petit, j'ai rencontré un sans-abri et puis ça bouleversait mon destin. Et du coup, j'ai voulu les aider.
Il est trop mignon. Il y a... Nicolas Caro, pourquoi vous levez les yeux au ciel ?
Oh, mais c'était de l'humour noir.
Je sais que c'est de l'humour noir. C'est pour ça que je le dis. Oui. Et là, comment il réussit, Arthur, à vendre ses dessins, en fait ?
Alors, au départ, c'était juste un peu de bouche à oreille. Hein, les proches, les voisins qui lui achetaient ses dessins, ses peintures. La première année, il a récolté 50 euros. Mais là, on peut dire que ça progresse. Hein. Il a réussi à mettre 1527 euros de côté. Hein. C'est sa cagnotte parce que son rêve ultime à Arthur, c'est d'acheter une maison ou même un immeuble pour offrir un toit à ses sans-abri. Et pour l'aider, la mairie de Cambrai expose ses toits dans une pièce de l'hôtel de ville. Et donc, eh bien, on peut acheter pour 5, 10, 15 euros. 300, veut mettre Nicolas, hein, pour un dessin d'Arthur.
Vous allez devoir en acheter un dessin, Nicolas Caro.
On voit sa maman qui l'accompagne.
Écrivez et je vous achète votre nouvelle. 10 000 euros même, si vous voulez. C'est pas mal, non ?
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Bon, pardon Aurélien, on vous
mais
a coupé.
Il n'y a aucun souci. Non. Donc on voit qu'il est soutenu. Il reçoit de plus en plus de courriers, hein, des feutres, des pinceaux en cadeau, hein, pour qu'il puisse continuer à aller acheter des sandwichs pour les sans-abri. Il gagne en notoriété. On avait fait le sujet sur Europe 1. Lionel Gougelot était allé à sa rencontre. Si c'est
oui.
Français,
c'est
ça
oui, 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 on peut c'est le dire. Juste même,
on peut même le dire,
dire,
on peut même le dire trois fois. Oh, oui. Et depuis sa mise en ligne, la vidéo a été visionnée près de 700 000 fois.
Voilà, donc si vous voulez découvrir l'histoire d'Arthur, c'est sur Brut, vous allez sur YouTube, sur Twitter, sur
exactement.
Facebook, ou et maintenant donc sur l'application et sur le site. J'adore cette histoire. Merci Aurélien Fleureau. Je suis prête à mettre de l'argent sur votre nouvelle, Nicolas Caro. Je continue à le dire. Merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain pour mercredi. Mercredi
c'est
les
malin.
Bons Tuyaux.
Ouais, c'est pas mal.
Ça marche toujours, Anissa. Vous avez vu ? Ça passe à une allure.
Europe 1. Il est 5h55. Eva Rock.
Tout le monde n'était pas concentré. Hein. Allez, vous pouvez aller boire un café, vous rendormir. À suivre dans Debout les copains. La météo, signé Laurent Cabrol et le journal de 6h de François Giffrier.